Vous écoutez
Le Modèle Standard,
un podcast gastronomique
de Nicolas Graner
et Valentin Villeneuve.
Aujourd'hui,
le meilleur des anneaux.
Bonjour Valentin.
Ah, salut Nicolas.
Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai une idée de sujet. Je voudrais te parler des anneaux.
Les anneaux... les anneaux de Saturne, tu veux dire ?
De Saturne, mais pas seulement, tu sais, dans le système solaire, il y a plein d'autres anneaux. Il y a des planètes naines, il y a d'autres choses qui ont des anneaux.
Saturne, quand même, c'est les anneaux que tout le monde connaît. Enfin, c'est les plus beaux, c'est les... En tout cas, moi, c'est ceux que je préfère.
Ah bah, ça, c'est sûr, c'est les plus intéressants, mais ça n'empêche pas de parler des autres.
Mais attends, mes anneaux préférés, my favorite rings, en anglais, ça me fait penser à my favorite things. Tu sais, c'est une chanson, ça fait comme ça...
C'est dans la mélodie du bonheur, là, comment ça s'appelle ? Mes joies quotidiennes.
Oui, sauf que ça s'appelle My Favorite Things, mes choses préférées, dans The Sound of Music.
Oui, écoute, moi j'ai vu le film en français, je suis désolé, mais je connais la chanson, oui.
Du coup, je pourrais essayer de faire un pastiche de cette chanson, ça pourrait être pas mal. Il faudrait que tu me dises des trucs un peu sur ces anneaux, parce que je ne sais pas quoi mettre dans les paroles, moi, tu sais...
Bah écoute, ma favorite rings, du coup, ça va être les anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne, ils sont très, très beaux, très facilement visibles. En fait, avec un petit télescope d'amateur, une lunette, même une bonne paire de jumelles, on arrive à les voir. D'ailleurs, le premier qui les a vus,
ouais.
Et bah, c'est le premier qui a regardé le ciel avec une lunette astronomique.
Ah.
Tu sais qui c'était ?
Un mec il y a longtemps, j'imagine.
Galilée.
Ah, Galilée.
En 1610... Il a regardé Saturne et il a vu, alors il voyait pas, il n'avait pas une lunette assez bonne pour voir vraiment des anneaux, mais il a vu qu'il y avait des choses de chaque côté de la planète. Il a pensé que c'était une planète triple en quelque sorte.
Ah d'accord.
D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez marrante à ce sujet. Quand il faisait une découverte, il voulait pouvoir prouver que c'était lui qui l'avait fait le premier, donc l'écrire à quelqu'un, mais il n'était pas encore très sûr. Donc en fait, il écrivait en code.
Ouais.
Il a envoyé un autre grand astronome de l'époque, qui était Kepler, il lui a envoyé une anagramme, c'est-à-dire il a écrit une phrase en latin qui disait en gros « Saturne est une planète triple », mais il a mélangé les lettres. Comme ça, il disait ben, « si je me suis trompé, on laisse tomber, et si par contre plus tard je veux prouver que c'est bien moi qui ai fait cette découverte, il suffira que je montre comment remettre les lettres dans l'ordre ».
Ah oui, donc il lui a envoyé une liste de lettres en vrac, comme ça.
Voilà. Mais alors Kepler, lui, ben, évidemment, il a essayé de prouver quel était le message, de remettre les lettres dans l'ordre, et il a réussi à faire une phrase, en latin aussi, mais qui disait quelque chose comme « Mars a deux satellites
». Mais attends, si mes souvenirs sont bons, Mars a deux satellites.
Mais oui, c'est ça qui est marrant, c'est que Mars a deux satellites qui sont tout petits. À l'époque, on ne pouvait pas du tout les voir avec la lunette de Galilée, on les a découverts 200 ans plus tard, mais par hasard, en se trompant dans le déchiffrement, Kepler est tombé sur quelque chose qui était juste.
D'accord.
C'est vraiment marrant.
Mais alors du coup, Galilée, il est resté persuadé que c'était d'autres planètes qui tournaient autour de Saturne, comme ça ?
Oui, en plus c'était un peu bizarre parce qu'il y a des moments où elles disparaissaient. Quelques années après, ils ont disparu. Et quelques années après encore, ils sont revenus. Et en fait, c'est 50 ans plus tard, c'est Huygens qui a vraiment bien compris ce que c'était. Comme c'est un anneau qui est très, très plat, très mince, quand par hasard on passe dans le plan de l'anneau, c'est-à-dire on le voit par la tranche, et bien en fait on ne le voit plus. Et par contre, quand on est un peu au-dessus ou un peu en dessous, on le voit. Donc ça, ça dépend des années, de la position de la Terre et de Saturne.
Mais du coup, pour qu'on les voit aussi bien dès qu'ils sont un peu inclinés, il faut qu'ils soient très, 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 très lumineux, enfin très...
Oui, alors lumineux, ils ne font pas de la lumière, hein. C'est comme toutes les planètes, les satellites, etc. Ils réfléchissent seulement la lumière du Soleil. Mais c'est vrai qu'ils sont très, très brillants, beaucoup plus que les planètes qui sont faites de rochers, ou la Lune, par exemple, qui est assez sombre. Là, les anneaux, ils sont très brillants parce qu'ils sont faits de glace.
Ah! Et donc ça reflète beaucoup, c'est comme quand tu vas au sport d'hiver ou tu mets des lunettes noires.
Voilà, ça, la neige, on sait que ça reflète beaucoup, une grande partie de la lumière du soleil. Et ben, comme les anneaux sont faits de glace, c'est pareil.
D'accord, et donc du coup c'est une espèce de gigantesque patinoire, on peut aller là-dessus et puis
glisser. ça serait pas mal une patinoire de plusieurs milliers de kilomètres. Non, en fait, ça, bien avant d'être à y voir de près, au 19e siècle déjà on avait compris qu'un gros anneau solide comme ça, d'un bloc, ça ne serait pas stable, il se casserait tout de suite en petits morceaux. Et même si c'était liquide, on a pensé à un moment que ça pourrait être liquide, mais même ça, le calcul montre que ça se désagrège très vite. Donc en fait, voilà, c'est vraiment des petits morceaux, c'est des tout petits bouts de glace qui font certains quelques microns, une fraction de millimètre, et d'autres jusqu'à quelques mètres, disons. Et donc chacun, en fait, est un un tout petit satellite, on pourrait dire, qui tourne autour de Saturne, chacun sur son orbite, mais comme tous ensemble, ils restent tous dans les mêmes zones, ben, vu de très loin, on a l'impression de voir quelque chose de continu, on a l'impression de voir un anneau.
Ah d'accord, donc si tu allais sur place, tu aurais l'impression d'être au milieu de l'autoroute avec des tas de glaçons qui passent autour de toi à toute vitesse.
Enfin, une autoroute le dimanche à 3h du matin, parce que c'est même pas très dense. Hein. Non, en fait, si tu te baladais là, si tu traversais les anneaux, tu verrais comme ça des rochers ou des cailloux au loin autour de toi, mais tu peux tout à fait traverser sans te faire cogner. Hein. C'est vraiment pas dense du tout. Quoi. D'ailleurs, la masse des anneaux, maintenant, on la connaît très bien. Depuis la Terre, c'était assez difficile de l'estimer, mais on a envoyé une sonde, la sonde Cassini, tu as peut-être entendu parler.
Ah oui, oui, je me souviens quand elle était partie. Voilà. Et elle a fini sa mission il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs.
Eh bien oui, elle s'est mise en orbite autour de Saturne en 2004, et à la fin de 2017, on a fini par dire, bon, ben, ça y est, elle a fini sa mission, on va la sacrifier. Alors, pendant tout ce temps-là, on ne l'a quand même pas fait traverser les anneaux, parce que même si je t'ai dit que ce n'est pas très dangereux, il y a quand même un petit risque de collision, et le prix d'une sonde, on ne s'amuse pas à prendre des risques. Mais à la fin, on s'est dit, on va la précipiter sur Saturne, la faire tomber, elle va se désintégrer dans l'atmosphère, mais au passage, elle pourra faire plein de mesures. Et du coup, là, ben, on a dit, c'est bon, maintenant, on peut prendre le risque, de toute façon, elle va crever dans quelques heures. Et donc, on l'a fait passer juste entre les anneaux et Saturne, dans le plan des anneaux, et là, elle les a vus vraiment de près. Ouais. Et en plus, on a pu mesurer très, très précisément sa vitesse et donc calculer les forces de gravité et tout ça, et ça sera permis de calculer précisément la masse totale des anneaux.
Alors, ça donne quoi ?
Eh bien, ça donne que ça fait 10 milliards de milliards de kilos. Ça ne te dit peut-être pas grand-chose.
Non.
Mais si tu compares à la calotte glaciaire de l'Antarctique sur Terre, par exemple, c'est là où il y a le plus de glace, et bien, ça fait la moitié à peu près.
D'accord. Enfin, donc, si tu attends un peu, ça fera moins.
Oui, parce qu'elles fondent. D'accord. Non, les anneaux de Saturne, ils ne fondent pas. Enfin, on y reviendra peut-être. Mais c'est pour dire, voilà, à l'échelle astronomique, c'est quand même quelque chose de très petit, quoi. Si on rassemblait toute cette glace en une grosse boule, elle ferait quelques centaines de kilomètres de diamètre. C'est la taille typique d'un satellite. Tu vois, les satellites de Saturne, il y en a des beaucoup plus gros, mais il y en a des plus petits aussi. Donc
ça ferait une grosse boule comme la Lune autour de nous.
Ah non, 10 fois plus petit que notre Lune.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, notre Lune, elle fait 3500 km de diamètre, et là, ce serait plutôt 200-300.
D'accord.
Donc non, c'est voilà, l'ensemble de tous ces anneaux, ça contient autant de matière qu'un petit satellite, disons.
Et donc, cette boule, par exemple, si c'était une boule de pâte à tarte, tu pourrais l'étaler, et à l'arrivée, au lieu de 300 km, t'obtiens quoi, là, autour de Saturne ?
Eh bien, voilà, t'obtiens les anneaux qui font des milliers de kilomètres. Alors, les anneaux principaux, c'est à peu près 80 000 km de large, et après, il y en a d'autres qui s'étendent encore plus loin, jusqu'à 400 000 km. Donc, c'est vraiment ta pâte à tarte, elle est devenue...
elle est très, très fine.
Elle est tellement étalée qu'elle est très, très fine. Par contre, en épaisseur, c'est juste quelques mètres.
Oui.
C'est incroyablement fin. À l'échelle astronomique, encore une fois, un truc de 10 mètres d'épaisseur, c'est même pas une feuille de papier à cigarette, quoi.
D'accord.
Donc ces anneaux, voilà, c'est un ensemble de petits cailloux qui tournent chacun sur son orbite et qui sont répartis très très espacés sur un disque très très grand et très très fin.
Et attends, depuis tout à l'heure, tu parles d'anneaux au pluriel, mais dès qu'on voit les photos, on voit bien, même s'il y a des lignes noires et de différentes couleurs, ils sont tous ensemble.
Oui, techniquement, c'est vrai. On pourrait dire c'est un anneau très très grand, mais la densité varie pas mal suivant les endroits. Il y a des zones où il y a quand même pas mal de glaçons, si tu veux, et puis d'autres endroits où pendant des centaines ou des milliers de kilomètres, on n'en rencontre quasiment aucun. Donc on a numéroté comme ça les différentes zones, on les appelle A, B, C, D, E, F, G, comme s'il y avait 7 anneaux différents. Alors on aurait pu en distinguer un peu plus, un peu moins, mais ceux-là, ils ont quand même, c'est des zones qui sont relativement denses et puis qui sont vraiment très clairement séparées. Donc les séparations entre deux anneaux où il n'y a presque rien comme matière, on appelle ça des divisions. Et puis les anneaux eux-mêmes, à l'intérieur, il y a encore des zones plus denses et des zones moins denses, qu'on appelle les lacunes, les gaps en anglais.
D'accord.
Donc chaque anneau a vraiment un peu sa personnalité. Ils ont des compositions différentes, des tailles différentes.
Des couleurs différentes aussi ?
Des couleurs différentes aussi, absolument. Alors ça, c'est lié à la taille des particules, en fait, puisqu'il y a des particules qui sont vraiment plus de la poussière, hein, des tailles microscopiques, et ça diffuse vraiment la lumière, ça diffuse des différentes couleurs. Et puis d'autres anneaux où il n'y a presque pas de poussière, il y a plutôt des gros morceaux, et donc ceux-là vont avoir des couleurs différentes.
D'accord. Bon, bah, du coup, avec tout ça, je pourrais faire un couplet. La chanson, hein, donc My Favorite Things, la chanson d'origine, en fait, c'est quoi ? C'est une valse, hein, c'est-à-dire c'est une danse à trois temps, comme ça. oum-pa-pa, oum-pa-pa. Ouais, et donc, à chaque fois, on s'appuie vraiment sur le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein, c'est sur le premier temps qu'on s'appuie. Alors, je vais garder ce même rythme, mais il y, y a des notes répétées. Alors, je vais peut-être remplacer ces notes répétées. Mais en gardant... Bah, finalement, c'est une mélodie qui est faite uniquement avec quatre notes différentes. Hein, le début de la mélodie, en tout cas. Il n'y a que quatre notes différentes. D'accord. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre dans l'ordre. Tout simplement en les triant de la plus grave à la plus aiguë. Donc ça s'appelle monter hein, vers l'aigu.
Ouais.
Puis après, je vais redescendre. Puis après, je vais remonter. Comme ça, je vais faire plusieurs balayages. Dans la chanson, il y a juste deux, trois petites collines. Mais moi, je vais en faire beaucoup plus. Ça ferait quelque chose comme ça.
Tu vois, on reconnaît effectivement, il y a un air de famille, c'est le même
alors,
note, mais...
Après, dans la chanson d'origine, bon, y a des petits méandres, et puis il y a une gamme qui monte, hein, après... Alors, bah, du coup, moi, je vais faire une gamme qui descend.
Ah oui. Bah, je reconnais bien ton esprit de contradiction.
Oui, c'est ça, ouais.
Enfin, en même temps, si tu veux parodier une musique existante, il faut bien que tu changes des choses.
Voilà. Alors, donc, du coup, bah, ça pourrait donner quelque chose dans ce style-là. Many chunks of ice are bitter and sudden.
Des tas de morceaux de glace orbitent autour de Saturne.
C'est
oui,
ça.
D'accord, ça marche.
Tightly forming a mesmerizing pattern.
Ah, il forme un dense motif mesmerizing, hypnotique. Hein.
Ouais, c'est
ah,
ça.
Ah ouais, c'est toutes ces couleurs qui se mélangent.
Wow. Et ben justement, gaps and divisions, varied coloring.
Des lacunes et des divisions, des couleurs variées, oui.
These will always be my favorite rings.
Ça sera toujours mes anneaux préférés.
Ouais. Voilà. bon, ben, comme ça, j'ai déjà un couplet. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a une structure aussi compliquée avec des fossés, des couleurs, etc.
Alors, tout ça, c'est gouverné par la gravitation, en fait. Hein. C'est oui. Tout ce qui tourne autour d'une planète. Saturne n'a pas seulement des anneaux, il a aussi beaucoup de satellites. Et alors, par exemple, si tu as un gros satellite qui tourne à l'extérieur d'un anneau, imagine une petite particule qui est dans l'anneau, qui tourne donc à une certaine vitesse, et puis, par hasard, elle est à un endroit où elle va faire exactement deux tours pendant que le satellite fait un tour, mettons.
Ouais. Ça,
suivant la distance où elle est de la planète, ça peut arriver. À ce moment-là, à chaque fois, tous les deux tours, elle va se retrouver en face du satellite, qui va l'attirer un petit peu hein, par gravitation.
Ouais.
Le satellite, il attire toutes ces particules. Et donc, ça va la déplacer petit à petit de son orbite, et finalement, elle va se déplacer, elle ne va plus être à cet endroit-là. Donc, si tu as un satellite, un gros satellite à une certaine distance, à la distance qui correspond à une orbite deux fois plus rapide, eh ben, au bout de quelques milliers d'années ou millions d'années, il n'y aura plus rien. C'est ce qui va faire une division.
Donc, tu veux dire que ce sont des lunes, des petites lunes, plus ou moins grosses, qui mettent de l'ordre dans tout ça ?
C'est ça. Alors, ça, c'est un des mécanismes. C'est simplement les lunes qui sont assez distantes, mais il y a ce qu'on appelle le phénomène de résonance, c'est-à-dire quand elles se retrouvent toujours au même endroit par rapport à certaines particules, elles vont les éjecter, et ça suffit pour faire des divisions. Mais il y a un autre mécanisme aussi, il y a des lunes qui sont carrément au milieu des anneaux.
Ah oui, en plein milieu de l'autoroute, quoi.
Voilà, les gros poids lourds au milieu des petits vélos sur l'autoroute. En fait, il n'y a pas vraiment de différence, si tu veux, hein, entre les gros cailloux, les gros glaçons, qui font quelques mètres, et puis les lunes qui font quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, il y a une continuité. Et donc, ces grosses lunes, bah, déjà, sur leur chemin, à sur leur orbite, elles vont balayer tout ce qui se passe. Donc, ça va faire une lacune, au moins à cet endroit-là,
ouais.
Voire une division, si elle est assez grosse. Et en plus, par l'effet de la gravitation sur ce qu'il y a, sur les anneaux qui sont juste au-dessus, juste en dessous d'elles, elle va les stabiliser. C'est-à-dire que si il y a un petit caillou qui a tendance à cause d'une perturbation, à s'écarter de son anneau, à en sortir, s'il y a une lune juste au bon endroit, elle va avoir tendance à le remettre dans l'anneau. Et donc c'est grâce à ça que les anneaux peuvent durer pendant des centaines de millions d'années, alors que spontanément, si tu mettais juste comme ça des milliards de petites particules sans lune pour les tenir en place, ben, l'anneau se disperserait très très rapidement.
Ah oui, d'accord. Donc elles sont là, elles surveillent. Toi, tu t'en vas pas, toi.
Voilà, c'est le berger avec son troupeau de moutons.
Voilà.
D'ailleurs, on les appelle des lunes bergères.
Hein. Ah oui, d'accord.
C'est le terme technique.
D'accord.
Shepherd moon. Ouais, ça se dit vraiment comme ça.
Il faudra que je mette dans la chanson, alors. mais donc, du coup, tu dis que ça peut durer des centaines de millions d'années. Ces anneaux, ils sont là depuis toujours ? Ils sont là depuis quand ?
Eh ben, on ne sait pas très bien. Il y a différentes théories. On sait que malgré les lunes bergères, c'est quand même pas très stable les anneaux. Donc s'il n'y a rien qui les régénère, normalement, au bout de quelques centaines de millions d'années, ils devraient disparaître. Or, Saturne, comme le reste du système solaire, existe depuis 4 milliards et demi d'années. On n'est plus dans les millions, là, on est dans les milliards. Donc, clairement, il doit y avoir quelque chose qui
s'est passé à un moment donné.
Qui s'est passé, voilà, qui a créé ces anneaux. Alors, il y a eu différentes théories. Il y en a qui sont plus ou moins admises maintenant, mais on n'a pas vraiment de certitude. Une théorie assez simple, qui a été faite déjà depuis très longtemps, c'est que ça pourrait être un satellite, donc une lune, un gros machin qui tournait autour de Saturne, et qui aurait été percuté par une comète ou par un astéroïde, qui l'aurait fait exploser en petits morceaux.
Ah oui.
Et voilà, comme ça tournait déjà autour de Saturne, les morceaux ont continué à tourner, ils se sont étalés et ça aurait fait cet anneau.
Mais alors vraiment beaucoup de petits morceaux. Hein.
Oui. Après, ça peut se désagréger, ça peut faire des morceaux assez gros à un moment, puis ensuite ils continuent à se rentrer les uns dans les autres, à éclater. Enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure, que si on collait ensemble tous ces morceaux, ça ferait à peu près la taille d'un satellite typique. Donc tu vois, ça...
C'est pas par hasard.
Voilà, ça rentre tout à fait dans cette théorie.
Ouais.
Alors il y a un autre mécanisme qui est un peu plus intéressant. C'est simplement, toujours en partant d'un satellite, mais il n'y aurait pas eu de collision. Simplement, il se serait approché de plus en plus de Saturne. Ça arrive, les satellites qui dérivent, qui se rapprochent de leur planète.
Donc, il serait tombé.
Mais non. Alors, s'il était tombé sur Saturne...
On ne le verrait plus.
On verrait plus. Mais quand on se rapproche d'une planète comme ça, il y a ce qu'on appelle les effets de marée. C'est-à-dire que la gravitation de Saturne, elle attire ces satellites, mais elle n'attire pas de la même façon partout. Elle attire plus un côté que l'autre, plus le côté qui est vers elle que le côté opposé. Et du coup, ça a tendance à déformer un peu, à tirer sur le satellite. Et s'il se rapproche trop, il y a un moment où, à force de tirer, cette différence d'attraction va finir par le casser.
Ah oui, d'accord.
En fait, si on prend n'importe quelle planète, il y a comme ça une certaine distance, on appelle la limite de Roche.
De Roche
Alors, Roche avec un R majuscule.
c'est un monsieur.
C'est un monsieur.
D'accord.
Édouard Roche,
ouais.
C'est un astronome français. Il travaillait à Montpellier, au 19e siècle, et qui avait... réaliser ça, il a fait le calcul, il a dit voilà, si un satellite se rapproche de plus en plus de sa planète, eh bien, il va être de plus en plus déformé, et alors après, le moment où il va casser, évidemment ça dépend de sa composition, s'il est plus ou moins solide, si c'est une grosse boule de fer ou si c'est un truc liquide, ça ne va pas être pareil, mais disons comme ordre de grandeur, c'est à peu près deux fois la taille du rayon de la planète, qui est une limite, donc la limite de Roche, en dessous de laquelle il ne peut pas y avoir de satellite.
Mais alors, tu veux dire que, par exemple, la Lune, notre Lune, elle risquerait de se casser comme ça
Si elle se rapprochait beaucoup de la Terre, elle pourrait. Heureusement, la limite de Roche de la Terre, c'est à peu près 10 000 km, et la Lune, elle est 40 fois plus loin que ça.
Ah oui,
donc ça va,
on a de la marge. D'accord.
Voilà. Mais nos satellites artificiels, par contre, ils sont bien en dessous de la limite. Mais eux, ça va, ils sont solides. Je te disais, la limite, ça dépend de quoi c'est fait, les satellites... En métal, il n'y a pas de problème, ils n'éclatent pas comme ça.
Oui.
Mais par contre, il ne pourrait pas y avoir un satellite naturel qui tiendrait juste par sa force, par son propre poids. Il ne pourrait pas être à moins de 10 000 km de la Terre.
D'accord.
Mais ça arrive dans la nature. Par exemple, on parlait des satellites de Mars tout à l'heure.
Oui.
Il y en a un, la Phobos, le plus proche. On a calculé qu'il est très près de la limite de Roche de Mars, qui est aux alentours de 5 000 km.
Ah.
Et en plus, on a vu qu'il se rapproche de Mars. Assez lentement, mais donc ça veut dire qu'on peut facilement calculer que d'ici 10, 20, peut-être 30 millions d'années, il sera devenu tellement proche de Mars qu'il va se casser en petits morceaux.
Mais du coup, Mars va avoir un anneau ?
C'est possible. Alors, il ne va pas durer longtemps parce que là, il n'y aura pas de lune bergère pour le stabiliser.
Ah oui.
Donc les morceaux vont retomber sur Mars ou repartir dans l'espace. Et d'ailleurs, on pense que Mars, dans les débuts du système solaire, avait beaucoup de satellites. Et petit à petit, ils sont tombés dessus, ils ont dépassé la limite de Roche, ils ont explosé. Et les deux qui restent maintenant, ce seraient
les deux qui étaient
les plus éloignés.
D'accord. Mais alors donc sur Saturne, les anneaux, ils sont à 2,5 fois la taille de la planète ?
Eh bien oui, Saturne étant beaucoup plus grosse, sa limite de Roche, c'est à peu près 100 000 km.
Ouais.
Et les anneaux principaux, ils font 80 000 km de diamètre, donc ils sont bien à l'intérieur de la limite de Roche.
D'accord.
Donc ça accrédite la théorie sur laquelle ça pourrait être une ancienne lune qui aurait franchi la limite et qui serait désagrégée.
Mais dans ce cas-là, ça aurait été une lune qui serait faite de glace quasiment pure ?
Ah, alors pas forcément. Il faudrait en fait que ce soit une lune qui soit suffisamment grosse pour être ce qu'on appelle différenciée. Si tu prends sur la Terre, par exemple, le cœur de la Terre, c'est du fer qui est très lourd. Autour, il y a des rochers. Et puis, à l'extérieur, il y a de l'eau. Et encore autour, il y a une atmosphère. Ça, c'est des couches successives.
Ouais.
Et les satellites qui sont assez gros, comme Titan, par exemple, qui est un satellite de Saturne qui est très gros, c'est le cas aussi. Ils sont différenciés.
Donc, ce qu'on voit, ça serait finalement la couche de glace externe d'un satellite.
Voilà. Donc, dans cette hypothèse, il faudrait que ce soit une lune qui soit qui contenait beaucoup d'eau, mais l'eau était arrivée à la surface, parce que la Lune était assez grosse pour que les couches se séparent. Et à ce moment-là, quand elle a éclaté, ben, l'extérieur, la couche extérieure faite d'eau, donc de glace, serait formée en anneau, et le petit noyau, ou le gros noyau rocheux à l'intérieur, lui, serait tombé sur Saturne.
Et donc, cette formation des anneaux, ça serait quelque chose qui s'est produit récemment, ou il y a super longtemps ?
Alors, du fait qu'on a calculé que ces anneaux ne sont pas très stables, on pense que ce serait probablement il y a moins de 100 millions d'années, donc quelque chose d'assez récent. Et même les toutes dernières hypothèses, là, publiées en 2019, ce serait qu'il pourrait avoir moins de 10 millions d'années.
Donc, ah là, oui, donc là, c'est avant-hier, quoi.
Bah, à l'échelle astronomique, oui, c'est vraiment très récent.
Donc, tu veux dire que si les dinosaures avaient eu des paires de jumelles et qu'ils avaient regardé Saturne, ils auraient vu juste une boule, sans les anneaux ?
D'après cette dernière hypothèse des anneaux vraiment récents de moins de 10 millions d'années, oui, absolument, ce serait le cas. En tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est que comme ils sont très très brillants, hein, ces morceaux de glace, c'est qu'ils sont propres. Et, alors, quand on laisse des choses dans l'espace, ça paraît bizarre, mais il y a plein de petites poussières qui volent dans l'espace, des bouts de météorites, etc., qui se déposent dessus. La Lune, par exemple, est couverte d'une couche de poussière, etc. Et donc, puisqu'on constate que ces anneaux sont très propres, ça veut dire soit qu'ils sont très récents, effectivement, donc ils n'ont pas encore eu le temps de se couvrir de trop de poussière, très récents à l'échelle astronomique, soit l'autre hypothèse, c'est qu'ils peuvent quand même être anciens, mais ils se régénèrent tout le temps, c'est-à-dire que ces petits morceaux de glace se collent entre eux, sous l'effet de certaines forces, gravitation, etc. Et par contre, ils se rééclatent aussi sous l'effet d'autres forces, notamment quand il y a des collisions. En fait, les surfaces qu'on voit sont toujours assez récentes.
Alors tout ça, je vais essayer de faire un couplet avec ça. Alors donc, tu me parlais des lunes bergères, hein, c'est ça ?
Shepherd Moons, oui.
Shepherd Moons. Small Shepherd Moons help a ring keep its structure.
Des petites lunes bergères aident des anneaux à garder leur structure.
Thanks to their mass, we get a nicer picture.
Ah, joli rime, là. grâce à leur masse, on a une plus belle image, c'est ça ?
C'est ça. Whether the very old or mere younglings.
Qu'ils soient très vieux ou des petits genoux.
I sure want to keep my favorite rings.
Ah, je suis sûr que je veux conserver mes anneaux préférés.
Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, là, je me suis payé le luxe de faire une gamme un peu bizarre à la fin. C'est une gamme qui descend, oui. Comme je t'avais dit, mais c'est une gamme un peu étonnante. On n'a pas l'habitude d'entendre cette gamme.
C'est vrai.
Contrairement à la gamme habituelle, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, par exemple, hein,
ouais.
Dans une gamme habituelle, les notes sont séparées par différents intervalles. C'est-à-dire que, par exemple, entre do et ré, j'ai une touche noire. C'est ce qu'on appelle, il y a un demi-ton qui sépare le do de la touche noire, puis après je monte de la touche noire vers le ré, et j'ai un deuxième demi-ton.
Oui.
Les demi-tons, hein, c'est vraiment ça, c'est quand on compte toutes les notes, y compris les touches blanches et les touches noires. Okay, et par contre, entre do, ré, alors ré, mi, pareil, j'ai une touche noire, mais mi, fa, là il y a juste un seul demi-ton, il n'y a pas de touche noire entre les deux. Elles donc, sont plus proches.
Les notes ne sont pas toutes régulièrement espacées dans la gamme habituelle.
Exactement. Et quand j'ai fait ma gamme tout à l'heure, si tu regardes entre chaque note, je descends à chaque fois de deux demi-tons. Un demi-ton, 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 et un demi-ton, un demi-ton.
Donc là, tu passes des touches blanches sur les touches noires ?
Bah, je suis obligé, parce que si ouais. Je veux garder un espacement régulier, je suis obligé de passer des touches blanches aux touches noires. Et ça, c'est une gamme, ce qu'on appelle la gamme donc, par ton entier. Il n'y a pas de demi-ton, il y a juste des tons entiers. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup utilisé et peut-être même découvert par Claude Debussy au début du XXe siècle. D'ailleurs, tu vois, ça donne tout de suite un côté un peu magique, un peu mystérieux. Elle a une couleur très particulière. Donc voilà, je me suis amusé à la mettre dans ma mélodie. Finalement, c'est ça ce qui est important d'ailleurs dans la musique. C'est pas tellement les notes qu'on choisit de jouer, c'est l'intervalle qui sépare les notes.
De combien on monte ou on descend entre deux notes de la mélodie.
Exactement. C'est comme si tu jouais un jeu de doigts, par exemple pour reprendre la chanson My Favorite Things. Par exemple, si je prends juste les deux premières notes, hein, et ben, en fait, depuis la première note, je monte de 7 demi-tons. J'avance de 7 cases dans mon jeu de doigts.
D'accord.
Et après, je descends de 5 cases. Et je redescends encore plus de 2 cases.
Attends, t'es monté de 7, descendu de 5, descendu de 2. Donc t'es revenu sur la note de départ.
Exactement. Donc dans la mélodie d'origine, ils ont choisi de faire ça à partir de la note mi, donc ça fait mi 6. Sauf que je pourrais partir de n'importe quelle note. Par exemple, si je pars d'un do, do, je monte de 7, j'arrive sur sol, je redescends de 5, j'arrive sur ré, je descends de 2, je reviens sur do. Et si je joue donc do, sol, sol, ré, do, do, on se rend bien compte que c'est la même mélodie.
Absolument, c'est juste un peu plus grave.
Exactement. Donc moi, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces questions d'intervalle entre les notes. Et d'ailleurs, finalement, dans ma nouvelle chanson là, que je suis en train de faire, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais juste repris les notes de la mélodie d'origine et je les avais mis dans un ordre différent.
Ah oui, comme Galilée qui mélangeait les lettres pour faire ses...
Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, ouais. Mais finalement, ce que j'aurais pu dire, c'est que, en fait, je joue avec les intervalles de la mélodie d'origine. Et donc, finalement, ce que je fais, c'est que je réorganise les intervalles, mais pour qu'on garde à la base les mêmes blocs de construction. Donc, et du coup, chez moi, ça... retrouve le même genre d'intervalle et c'est pour ça que ça donne quand même un air de parenté.
D'accord, c'est comme ça que tu fais un pastiche qu'on arrive à reconnaître.
C'est ça, c'est l'idée en tout cas. Bon, mais alors pour les couplets suivants, du coup là on a dit pas mal de trucs sur les anneaux de Saturne, mais je pourrais parler des autres puisque tu m'as dit qu'il y en avait un peu partout en fait.
Un peu partout, quand même pas, mais il y a la moitié des planètes qui ont un anneau quand même.
Ah, une sur deux tu veux dire?
Oui, enfin. Alors, en partant du Soleil, oui. Hein, on a d'abord les quatre petites planètes rocheuses, la Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ouais. Elles n'ont pas d'anneau.
Ah bon. Bon.
Par contre, après, les quatre suivantes, qui sont qu'on appelle les géantes gazeuses, elles en ont toutes. Donc, la prochaine, c'est Jupiter.
Ah, Jupiter. Donc, c'est la plus grosse, elle.
C'est ça. Mais ces anneaux, par contre, ne sont pas du tout les plus gros. D'ailleurs, on ne les a pas découverts au télescope depuis la Terre. On les a vus pour la première fois parce qu'on était allé regarder sur place.
Ah oui, à bicyclette.
Non, on n'a pas envoyé d'astronautes, mais on a envoyé des sondes. Hein, les sondes Voyager 1 et 2, c'était une mission américaine de la NASA, absolument magnifique, qui est passée à côté de toutes les grosses planètes. Et c'est vraiment par elle qu'on a appris énormément de choses.
Ouais.
Donc c'était en 1979.
Ouais. Ouais,
jusque-là, on ne savait pas que Jupiter avait des anneaux.
D'accord.
Et il y a eu d'abord Voyager 1, mais malheureusement, il y avait un de ces instruments qui était en panne. Donc,
Ah, dommage.
Bon, il a pris quelques photos, mais pas très bonnes. Et puis après, Voyager 2, qui a pris des photos absolument très claires, où on n'avait plus aucun doute que Jupiter avait bien des anneaux.
D'accord.
Après, donc, on a eu beaucoup plus d'informations par la sonde qui s'appelle Galileo, qui, elle, dans les années 90, s'est carrément mise en orbite autour de Jupiter, et donc qui est restée pendant une dizaine d'années. Et donc là, qui a vraiment étudié... très en détail. Et puis maintenant, on a les moyens de l'observer depuis la Terre. On a de meilleurs instruments, des grands télescopes, et puis aussi le télescope spatial Hubble, qui est en orbite autour de la Terre et qui lui prend des images absolument formidables. Donc voilà, maintenant on a quand même pas mal d'informations sur ces anneaux de Jupiter, mais qui ont été découverts finalement très récemment.
Ah oui, alors du coup, ils ne ressemblent pas à ceux de Saturne, ils sont moins gros
Ils sont beaucoup moins lumineux. Alors déjà, ils sont faits de poussière, et de poussière relativement sombre, un peu vaguement rougeâtre. Mais en tout cas, ils réfléchissent beaucoup, beaucoup moins la lumière que ceux de Saturne. Ce n'est pas de la glace, donc c'est pour ça qu'on les voit moins. Et aussi, ils sont moins grands, moins épais.
Mais alors, quand tu dis poussière, c'est quand même des gros blocs ou vraiment...
Non, c'est vraiment... ça peut être la taille de quelques microns ou quelques millimètres. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une structure un petit peu complexe avec plusieurs anneaux aussi, comme Saturne. Il y a l'anneau le plus interne qu'on appelle le halo,
ah,
qui est vraiment que de poussière. Ensuite, l'anneau principal, qui n'est pas très grand, mais qui a des morceaux un peu plus gros. Et puis, deux autres anneaux qu'on appelle... Alors, en anglais, c'est gossamer. Ouais. Gossamer, c'est un tissu, c'est la gaze.
Ah oui,
la gaze GAZ2.
Oui.
Et cette structure-là, est, comme autour de Saturne, elle est maintenue en place par des lunes bergères.
D'accord. Mais et donc toute cette poussière, elle vient d'où? C'est une lune qui a explosé, comme pour Saturne ou...
Non, alors là, en fait, ces systèmes-là, ils sont très instables. Les particules retombent rapidement. Elles tournent pendant 100 à 1000 ans à peu près avant de retomber sur Jupiter.
Ah oui.
Ce qui veut dire que forcément, ça doit être alimenté en continu. Ce n'est pas des anneaux qui ont été formés une fois pour toutes et puis qui se désagrègent peu à peu. Et en fait, c'est les satellites qui perdent un petit peu de matière. À chaque fois, par exemple, il y a des impacts de météorites. Donc c'est pour ça aussi que ces anneaux sont très, très fins, beaucoup plus ténus que ceux de Saturne. C'est parce que cette matière qui est éjectée, il n'y en a quand même pas des quantités énormes.
Oui, d'accord. Alors donc du coup, je pourrais dire quelque chose du genre « Jupiter too has a complex ring system ».
Jupiter aussi a un système d'anneaux compliqué, oui.
Made of particles and rock from which they come.
Fait de particules et des rochers d'où elles proviennent.
They less unknown but without misgivings.
Ils sont moins connus, mais il n'y a pas d'erreur.
They still count amongst my favorite rings.
Ils font quand même partie de mes anneaux préférés. Ah, ben voilà, t'es pas raciste.
Voilà. Il y a un truc qui m'impressionne au sujet de la chanson My Favorite Things, et peut-être que ça a contribué à expliquer son succès. C'est que, je te disais tout à l'heure, les intervalles entre les notes. Tu sais, j'avance de 7 cases, je recule de 5, etc. Hein, comme sur un jeu de doigts. En fait, c'est pas tellement un jeu de doigts, cette histoire. C'est plutôt une horloge. Parce que si je compte vraiment toutes les notes en partant de Do, par exemple, hein, et que je monte en parcourant toutes les cases, tous les demi-tons, au bout de 12 demi-tons, au bout de 12 cases, je retombe sur une autre note qui s'appelle Do aussi.
D'accord.
Hein, et après, bah, Do, le Ré, etc., etc., ça continue.
Tu es monté d'une octave, c'est ça ?
Exactement, c'est ce qu'on appelle une octave. Donc, quand je monte de 7 cases, par exemple en partant de Do, j'arrive à Sol, ok ? Si je monte encore de 7...
Ah, 7 et 7, 14.
Donc
sur une horloge, 14 heures, c'est 2 heures.
Exactement. Et du coup, je retombe sur une note qui s'appelle Ré. C'est comme si, en partant de mon Do de départ, j'avais monté seulement de 2.
Donc, si tu montes de 2 fois 7, c'est comme si tu étais monté une fois de 2, mais
exactement,
à l'octave d'au-dessus.
C'est ça. C'est la même chose. D'ailleurs, si sur mon horloge, j'ai avancé de 7 heures, et qu'après, je recule de 5, je reviens sur 2. Donc, monter de 7 ou reculer de 5, finalement, ça revient au même. À chaque fois, j'arrive sur, en l'occurrence, sur la note Ré.
Mais c'est pas bon pour le mécanisme de l'horloge de reculer.
C'est pas fait pour. C'est pour ça que je préférais le jeu de doigts. Alors, finalement, quand je joue une mélodie qui est faite de plus 7, moins 5, moins 2, que ça soit 7 ou 5 ou 2, tout ça, c'est des intervalles qui sont un peu dans la même famille, finalement.
D'accord, tu peux les reconstituer les uns en additionnant les uns et les autres.
Exactement, exactement. Et finalement, c'est toujours, toujours les mêmes sortes d'intervalles, même dans la troisième ligne de la chanson dont je n'ai pas parlé pour l'instant. Si je joue ça en comptant les intervalles, en comptant les demi-tons, ça me fait plus 7, moins 2, moins 5, plus 2, moins 2, moins 2, plus 7, moins 2, moins 7. Autrement dit, à chaque fois, j'ai soit du 2, soit du 7, soit du 5. C'est toujours des intervalles qui sont de la même famille et de la même catégorie. Et moi, c'est de ça que je me suis servi, en fait, dans ma réécriture. Donc moi, en partant de ma note de départ, hein, je fais 5 plus 2 plus 5. Je redescends moins 5, moins 2, moins 5. Plus 5, plus 2, plus 5, etc., etc. À chaque fois, je me sers toujours de ces intervalles-là. Ça m'a bien amusé. C'est un peu comme un sudoku, tu vois. J'additionne des chiffres et à chaque fois, même quand je veux faire une bifurcation, je me débrouille pour qu'elle puisse se décomposer en 2 et en 5 et en 7.
Et du coup, ça explique que ta mélodie rappelle l'autre sans qu'on puisse dire exactement qu'on retrouve les mêmes morceaux.
Exactement. D'ailleurs, dans la mélodie de départ, hein, quand il y a la fameuse gamme, elle fait 1, seulement 1, là, tu vois. Après 2, 2, 2, 1 demi-ton, 2 demi-tons, 2 demi-tons. Et là, surtout, elle descend de 6 demi-tons. Et cet intervalle-là, quand on... Dans My Favorite Things, à chaque fois qu'on arrive sur cette note, on se dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre qui est un peu pas à sa place. Quoi.
Parce qu'on n'est pas dans les 5 et les 7 et les 2.
Voilà, exactement. Donc, de ce point de vue-là, j'ai essayé de pousser encore plus loin la cohérence. Je ne sais pas si Oscar Hammerstein avait raisonné comme ça quand il a écrit cette chanson, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, maintenant qu'on a parlé de Jupiter, le problème, c'est que dans la chanson d'origine, là, c'est l'endroit où on arrive au refrain. Tu sais, il y a un petit refrain de juste deux lignes, « When the dog bites, when the bee stings », etc. Alors, du coup, bah, moi, je vais essayer de faire pareil. Je vais peut-être faire une espèce de récapitulatif de la formation des anneaux, comme on avait dit tout à l'heure. Tu me parlais de la limite de Roche, notamment, hein, c'est ça ?
Oui, Edouard Roche, oui.
Alors, ça pourrait faire quelque chose comme ça. When the moon breaks into pieces at the rush limit.
Quand une lune se casse en morceaux à la limite de Roche.
C'est ça. It may contribute to a beautiful ring.
Elle peut contribuer à faire un bel anneau.
That we'll enjoy while it lasts.
Dont nous profiterons tant qu'il durera. Oh, c'est beau.
J'espère bien. Alors, si on continue en partant du Soleil, il y a eu Jupiter, il y a eu Saturne. Après, il y a qui ? Il y a Uranus, c'est ça ?
C'est ça. Alors Uranus, elle a des anneaux aussi, qui sont aussi très très difficiles à voir. Alors là, il y a un petit doute historique qui est assez intéressant. Si je te dis William Herschel, ça te dit quelque chose ?
Attends, c'est un musicien du 18e siècle, ça ?
Oui, absolument, mais il est beaucoup plus connu en fait comme astronome que comme musicien.
Ah, d'accord.
Il est un peu comme nous en fait, il s'intéressait aux deux. Il faudra qu'on fasse un épisode un jour sur lui, ce sera un bon sujet. Mais en fait, bon, comme astronome, il est essentiellement connu parce que c'est lui qui a découvert la planète Uranus.
Ah bon ?
Au télescope, oui, ouais, c'est la première fois qu'on découvrait une planète, une nouvelle planète depuis l'Antiquité. Quoi. Quelques temps après, donc en 1789, il a mis dans son carnet de notes qu'il pensait avoir observé un anneau autour d'Uranus.
Et il y a un anneau autour d'Uranus.
Et il y a un anneau autour d'Uranus. Alors la question, c'est est-ce qu'il a vraiment observé ? Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'après, pendant 200 ans, il y a quand même des milliers d'astronomes qui continuent à observer Uranus avec des instruments de plus en plus performants, et personne ne l'a jamais revu.
Ah.
Donc soit il s'est trompé, parce qu'on a beaucoup d'exemples dans l'histoire d'astronomie de gens qui ont cru voir des canaux sur Mars ou des choses bizarres, et puis en fait, ça n'existait pas. Ou alors, il y en a qui pensent qu'il a peut-être vraiment vu, parce qu'à l'époque, c'était juste avant la révolution industrielle, hein, fin du 18e, donc il n'y avait pas encore de fumée, de pollution dans le ciel. Le ciel était beaucoup plus pur que maintenant. Donc peut-être qu'il a pu réussir à les voir et qu'après, pendant 200 ans, le ciel était trop pollué, on ne le voyait plus. Enfin bon, ça, là, c'est vraiment un sujet de discussion pour les historiens.
Et donc, il a fallu attendre 200 ans pour être sûr ?
Alors voilà, la vraie observation des anneaux dont on est sûr maintenant, c'est 1977. Mais en fait, même là, on ne les a pas vus directement, comme ça, dans un télescope ou photographiés. On les a détectés à l'occasion d'une occultation.
Une occultation ? Grand Dieu !
Non, non, ça n'a rien de scabreux. Occulter, c'est juste passer devant quelque chose, le masquer. Et en l'occurrence, c'est quand une planète passe devant une étoile.
Eh bien, on ne voit plus l'étoile.
Eh bien, on ne voit plus l'étoile.
D'accord. Jusque-là, ça va.
Jusque-là, ça va. Mais ça nous apprend des choses, alors pas tellement sur l'étoile, mais sur la planète.
Oui.
Parce que imagine, par exemple, si la planète n'a pas d'atmosphère,
oui.
Le bord de la planète va passer devant l'étoile et pouf, d'un seul coup, on va voir l'étoile s'éteindre.
D'accord.
Mais par contre, s'il y a une atmosphère, eh ben, ça va s'éteindre progressivement parce que l'atmosphère, elle va commencer à masquer un petit peu l'étoile, puis elle est de plus en plus dense quand on se rapproche du sol.
Et alors, si la planète a un anneau, va faire clignoter l'étoile.
Exactement. Là, c'est ce qui s'est passé en 1977. On observait ce passage d'Uranus devant une étoile pour savoir si Uranus avait une atmosphère. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que quelque temps avant qu'Uranus passe devant l'étoile, alors c'est pas éteinte complètement, mais disons c'est un peu affaibli, puis c'est revenu, puis ça s'est affaibli, c'est revenu 5 fois de suite comme ça. Ensuite, il y a eu l'occultation proprement dite quand Uranus est passé devant, et quand Uranus s'est éloigné, que l'étoile est réapparue, de nouveau, elle s'est affaiblie, revenue 5 fois de suite.
Ah oui, d'accord.
Donc là quand ça se passe une fois, on peut dire que c'est peut-être un satellite ou autre chose, mais quand c'est 5 fois d'un côté de la planète et 5 fois exactement symétrique de l'autre côté, là forcément c'est des anneaux.
D'accord.
Mais on savait très peu de choses sur ces anneaux. Enfin si, on savait leur taille, puisque en regardant à quel moment exactement l'étoile s'éteint et pendant combien de temps, on peut savoir la taille des anneaux, à quelle distance ils sont de la planète. Tu vois, déjà là, on a plein d'informations. Une idée de leur composition, parce que suivant la partie de la lumière de l'étoile qui arrive à traverser ou qui n'y arrive pas, ça donne une idée de la façon dont ils sont formés. Voilà, donc les astronomes, ils aiment bien, comme ça, à partir de très très peu d'informations, arriver à en déduire le plus de choses possibles. Et là, ils se sont bien éclatés.
Et donc, c'est comme ça qu'on a vu que Uranus avait 5 anneaux, alors ?
Voilà, à ce moment-là, on a vu 5 anneaux. Et puis, par la suite, après, avec d'autres occultations, on a vu qu'en fait, il y en avait 4 de plus.
Ah oui ?
Donc, on était déjà à 9 anneaux. Alors après, en 1986, donc là on est encore un peu plus tard, le fameux Voyageur 2 là, qu'on a vu tout à l'heure, qui est passé près de Jupiter.
Celui dont les appareils marchaient.
Voilà. Et bien après, il est passé près d'Uranus. Et lui, il a vu encore, donc il a revu ses anneaux d'âme, il en a vu encore 2 de plus.
Donc on est à 11 là.
Voilà. Et encore après, là, depuis la Terre cette fois, enfin depuis le télescope Hubble, donc, qui est en orbite autour de la Terre,
ouais.
Donc il est très loin d'Uranus, mais il est dans des très bonnes conditions pour faire des belles observations, il a vu encore deux anneaux de plus.
Donc, ah oui.
Actuellement, on en est à 13 anneaux.
Donc c'est quand même beaucoup plus important que Jupiter, par exemple.
Oui, absolument. Enfin, en nombre d'anneaux, en tout cas. Mais par contre, ils sont vraiment très, très difficiles à voir, quoi. Ils sont très, très sombres.
Ah, donc c'est pas de la glace, alors ?
Non, probablement pas. Ou alors, c'est peut-être de la glace recouverte de matière carbonée, très sombre. Voilà. En tout cas, ils sont vraiment difficiles à voir. Après, alors, contrairement à Jupiter, où c'était principalement de la poussière, Saturne, il y a de la poussière et des gros morceaux. Là, Uranus, c'est plus des gros morceaux. Il y a très peu de poussière, sauf dans deux anneaux qui sont plutôt poussiéreux. Sinon, c'est des morceaux tu vois, de l'ordre de 20 cm jusqu'à quelques mètres. Quoi.
Mm.
Donc c'est plus, on est plus dans les rochers que dans la poussière.
Et donc, ça reflète très, très peu la lumière du Soleil.
Ah oui, oui. Là, ça absorbe presque tout. Ça reflète, disons, 2% de la lumière. Alors que si tu veux, pour comparer, les anneaux de glace de Saturne, ils reflètent 50-60%.
Ah oui, d'accord.
À certains endroits. Alors, si tu veux continuer à comparer avec Saturne, cette structure compliquée là en 13 anneaux, logiquement, pour qu'elle reste stable, il doit y avoir des satellites bergers, des lunes bergères qui maintiennent en place. Hein,
tu ah te oui, rappelles, d'accord. Oui.
Alors, il y en a quelques-uns qu'on a vus, effectivement. Il y a certains anneaux où on sait très bien par quoi ils sont stabilisés. Les autres, on ne sait pas. Donc, soit c'est simplement des lunes qu'on n'a pas encore détectées, soit il y a peut-être d'autres mécanismes. Voilà, il y a encore du travail pour les chercheurs.
Mais ça serait comme Saturne, c'est-à-dire quelque chose qui a été formé par quelque chose qui explose, ou plutôt comme Jupiter, quelque chose qui est alimenté en continu
Plutôt comme Jupiter, surtout. Enfin, ça dépend des anneaux probablement, mais on pense que c'est plutôt alimenté par des gros satellites qui se désagrègent, qui perdent leur matière petit à petit.
D'accord.
Voilà, donc là, je pense qu'avec ça, ça suffit. De toute façon, tu ne vas pas t'étendre à faire des couplets entiers sur Uranus.
Pourquoi pas parce qu'après, il reste quoi ? Il reste Neptune, alors ?
Voilà, Neptune, la dernière planète, c'est l'autre géante glacée, comme on les appelle, Uranus
ah oui.
Et Neptune, parce qu'elles sont très loin du Soleil. Alors là, il y a aussi une observation historique un peu douteuse, mais alors encore plus douteuse que pour Uranus. En 1846, il y a un astronome qui pense avoir vu des anneaux autour de Neptune, mais là, franchement, personne n'y croit trop.
Et donc, c'est pareil, c'est au XXe siècle.
Voilà. Alors là, ce qui est curieux, c'est que c'est même avant Uranus, en 1968,
ouais.
À l'occasion d'une occultation, toujours, Neptune qui passe devant une étoile, et il y a quelqu'un qui pense avoir vu un petit clignotement qui pourrait être des anneaux, mais on n'y fait pas trop attention, on n'est pas trop sûr. Et puis alors, en 77, quand on découvre les anneaux d'Uranus, comme tu dis, du coup, on se dit, ah ben, si Uranus en a, peut-être que Neptune aussi. Ah. Et là, on réexamine ces observations qui avaient dans presque 10 ans, et on retrouve, ah ben oui, finalement, il y a une occultation qui laisse penser qu'il doit y avoir des anneaux.
D'accord.
Et puis, bah ensuite, on essaie de les voir en direct. Hein, c'est quand même plus intéressant que cette détection indirecte.
Mais on n'est toujours pas sûr.
Mais voilà, pendant toutes les années 80, il y a des observations discutées. Il y en a qui disent on les a vues, on les a pas vues. Et puis finalement, le doute est vraiment levé en 1989 par, devine qui ?
Voyageur.
Voilà.
Voyageur 2.
Notre fameux Voyageur 2 qu'on a déjà rencontré autour des autres planètes.
Il met tout le monde d'accord, lui.
Il a eu vraiment des circonstances très favorables, les planètes étaient dans une position telle qu'il a pu les visiter toutes à la suite.
D'accord.
Ça ne s'est pas reproduit depuis.
Et donc là, il a confirmé une fois pour toutes que Neptune avait des anneaux
voilà.
Comme les autres planètes géantes.
Et ensuite, on en a même revu de plus depuis la Terre, toujours par le fameux télescope Hubble,
ah oui.
Qui a réussi à les voir en direct cette fois.
D'accord.
Donc actuellement, on en est à 5 anneaux. Alors là, c'est rigolo parce qu'on ne leur a pas donné des numéros ou des lettres comme pour les autres planètes. On leur a donné carrément des noms d'astronomes qui avaient joué un rôle dans la découverte de Neptune ou l'étude de Neptune.
D'accord.
Alors le plus connu, c'est Le Verrier, le français qui a prédit où était la position de Neptune. Il y a Adams, l'anglais, qui avait fait les mêmes calculs au même moment, mais qui s'est moins fait connaître. Il y a Gall, qui est celui qui l'a vraiment observé à la lunette, etc. Donc c'est des noms d'astronomes.
D'accord. Et donc ces anneaux, c'est comme pour Uranus, ils sont très très peu visibles parce qu'ils sont, ils reflètent pas la lumière. Et...
Voilà, alors à la fois c'est de la matière très sombre comme Uranus, ils sont très très peu denses. Pour te donner une idée, Saturne,
oui.
Il y a des endroits, donc les anneaux qui sont bien visibles, et puis il y a des divisions où on dit, il n'y a quasiment pas de matière.
Oui.
Et bien, au milieu de la plus grande division, la densité, c'est à peu près la même que celle des anneaux de Neptune.
Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il y a trois fois rien. Quoi.
Voilà. Si... si on mettait l'anneau de Neptune autour de Saturne, on dirait qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Mais bon, faute de mieux, c'est ouais. Les anneaux.
Et alors, donc, c'est plutôt de la poussière
Alors oui, c'est, voilà, c'est comme Jupiter. C'est vraiment de la poussière très, très fine.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de gros morceaux.
D'accord.
Donc, en fait, on retrouve un peu des caractéristiques des autres anneaux. Mais il y a quand même une chose qui est vraiment frappante.
Ah bon ?
C'est dans les anneaux de Neptune, c'est ce qu'on appelle des arcs. Je t'ai dit que la densité autour de Saturne, par exemple, elle varie, mais elle varie en fonction de la distance
oui.
à la planète.
Oui, ça fait des cercles concentriques.
Exactement. Et bien, sur Neptune, ce n'est pas le cas. Quand tu fais le tour de l'anneau,
ouais.
tu as des endroits où c'est très dense et des endroits où c'est beaucoup moins. Ça fait des arcs de cercle.
D'accord.
Tu vois ce que c'est
Oui, oui, des pointillés, quoi.
Voilà. C'est-à-dire que la matière des anneaux s'est regroupée à certains endroits de l'anneau, et par contre, à d'autres endroits, il y a le ménage qui a été fait, elle a été évacuée. Le plus frappant, c'est sur l'anneau qui s'appelle Adams, où il y a cinq arcs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la matière, il y a des endroits où il n'y a quasiment rien, et puis la matière s'est regroupée comme ça, des morceaux d'anneau. Mais
donc non seulement il faut que tu dises quel anneau tu vas visiter, mais aussi quel arc de l'anneau.
Voilà. Alors ceux-là aussi, on leur a donné des noms, c'est rigolo. Là, c'est... tu vas deviner de quelle nationalité était celui qui a choisi les noms. Le premier arc s'appelle Liberté 1, le deuxième Liberté 2.
Oui,
et ensuite,
logique.
Égalité,
ah.
Fraternité.
Et il en reste un.
Et Courage.
Ah bon, Liberté, Égalité, Fraternité, Courage.
Bah, il y en avait cinq et on n'avait que trois mots dans la devise.
D'accord. Oui, je remarque qu'il y a Liberté 1 et 2. Bon,
voilà,
on
oui,
va
non,
pas chercher.
Non, en fait, ça dépend de l'ordre dans lequel ils ont été découverts.
Oui, c'est ça. Mais... D'accord.
Mais en tout cas, voilà. Et alors, là où on ne serait pas très surpris, c'est qu'il y ait des fluctuations le long d'un anneau. Il peut y avoir des choses qui se regroupent à un moment, puis qui se reséparent. Quand on regarde même les anneaux de Saturne, à certains moments, il y a des endroits qui sont plus denses que d'autres. Mais par contre, ce qui est étonnant dans ces arcs de Neptune, c'est qu'ils sont stables.
Ah.
On les a observés pendant des dizaines d'années et ils sont toujours au même endroit quasiment.
Quoi. Et on ne sait pas à quoi c'est dû.
On ne sait pas. C'est certainement lié à l'attraction des satellites qui font que ça va attirer plus à certains endroits qu'à d'autres, etc. Mais dans le détail, on essaye de faire des modèles mathématiques qui arrivent à reproduire ça et ben, on n'y arrive pas très bien. Quoi. Il y a des théories, mais on n'est vraiment pas sûr de comment ça se fait.
Ah, donc il va falloir les voir sur place.
Ça pourrait aider, oui. Il y a des missions qui sont envisagées, mais enfin, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment programmé de façon sûre.
D'accord. Bon, bah, alors je vais essayer de raconter tout ça dans mes paroles.
Bah, tout ça peut-être pas, mais en tout cas, dire quelques mots sur Uranus et Neptune.
Uranus's rings are surprisingly diverse.
Les anneaux d'Uranus sont étonnamment divers.
Oui. Ouais. Neptune's are fainter and coalescent disperse.
Ceux de Neptune sont moins visibles et ils se regroupent ou ils se dispersent. Enfin, la matière sur les anneaux, oui.
We've yet to grasp them and get our bearings.
Il nous faut encore arriver à les comprendre et à s'orienter.
There'll soon be some of our favorite rings.
Ils feront bientôt partie de nos anneaux préférés.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, depuis tout à l'heure, je te parle d'intervalles à base de 7, 5, 2.
Oui.
Mais il y a un intervalle qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la tierce, do, ré, mi, hein, typiquement. Si je vais directement de do à mi, ça fait 2 plus 2, ça fait 4.
Oui.
4 demi-tons. Mais si au lieu de jouer do, ré, mi, je joue do, ré, mi bémol. Un mi bémol, c'est-à-dire la touche noire qui est juste avant, ça fait seulement 3 demi-tons entre do et mi bémol. Ça, c'est ce qu'on appelle la tierce mineure. La tierce majeure, on dit que c'est un intervalle qui est plutôt gai, plutôt joyeux. Par contre, la tierce mineure est plutôt triste, tu vois.
Plus mélancolique.
Exactement. Ouais. Donc, il y a une couleur complètement différente et un caractère différent. Ce qui est intéressant, c'est que ça soit 4 ou 3, bah, ça n'est ni 7, ni 5, ni 2. Autrement dit, si je fais une mélodie, ça, c'est My Favorite Things, ou la mienne qui fait... De toute façon, je passe pas du tout par la tierce.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, pendant ce temps, je pourrais jouer des accords dans lesquels il y a une tierce majeure. Dans ce cas-là, on a l'impression que ma mélodie, elle est plutôt joyeuse.
Oui.
Par contre, si en arrière-plan, je mets un accord mineur, c'est-à-dire qu'il y a une tierce mineure dedans, do, mi bémol, tu vois, et je joue la même mélodie. Et bien là, tout d'un coup, ma mélodie, on a l'impression qu'elle est triste. C'est un peu comme si tu avais un même dessin, mais que tu changes juste la couleur d'arrière-plan. Et ton bonhomme, tu as l'impression qu'il est soit éclatant de joie, soit profondément désespéré. Voilà, donc c'est un thème un peu caméléon. Et d'ailleurs, dans la mélodie de My Favorite Things, dans la chanson d'origine des années 60, Oscar Hammerstein fait exactement ça. Au début, il la joue avec des accords mineurs dans l'accompagnement. Ok. Et puis après, on entend la même mélodie. On a la même mélodie, il n'y a que les accords qui l'accompagnent qui changent, et tout d'un coup, ça donne un éclairage complètement différent. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose dont je vais moi-même user et abuser. Voilà. C'est vraiment intéressant. Je me demande si au moment où il a écrit cette mélodie, il se disait déjà que ah, c'est chouette, je vais pouvoir mettre des accords différents en dessous, ou si c'était simplement un heureux hasard. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si cette mélodie a ensuite été adoptée par les jazzmen. C'est devenu un standard de jazz qui a été joué par plein de jazzmen, notamment quelqu'un comme John Coltrane, qui a enregistré des versions de My Favorite Things. Parfois, ça dure plus de 20 minutes, c'est des trucs complètement délirants. John Coltrane, lui-même, ce qu'il faisait, c'était du jazz modal, c'est-à-dire du jazz dans lequel les gammes peuvent être mineures ou majeures ou avec des assemblages d'intervalles encore différents. Mais comme les notes de sa mélodie de base sont finalement relativement agnostiques, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, et ben c'est pas étonnant que finalement que ça a eu un tel succès auprès des jazzmen. Et donc moi, c'est des propriétés que j'ai veillé à conserver dans ma réécriture à moi. Mais attends, depuis le début, tu me dis, donc il y a sur les 8 planètes, il y en a 4 qui ont des anneaux, mais il en manque une, il y a Pluton après.
Alors Pluton, c'est pas une planète, hein. C'est une planète naine.
Ah, c'est une planète mais en plus petit.
Si tu veux, voilà, enfin, y a une définition rigoureuse pour les astronomes, mais disons, on peut dire que c'est une planète qui a de l'ordre de 2000 km de diamètre.
Ouais. Donc plus petite que notre Lune, en fait.
Voilà, c'est vraiment trop petit pour être une planète, mais c'est trop gros pour être un astéroïde. Voilà, c'est une planète naine, on en connaît quelques-unes comme ça. Pluton, c'est celle qui est la plus connue et depuis le plus longtemps.
Mais Pluton n'a pas d'anneau.
Non, alors là, pour le coup, on en est sûr. Depuis la Terre, c'est pas facile à observer, mais il y a la sonde New Horizons qui est passée vraiment tout près de Pluton, qui a pris des tas de photos magnifiques. Donc là, s'il y avait un anneau, forcément, elle l'aurait vu.
D'accord.
Mais par contre, il y a une autre planète naine, moins connue, qui s'appelle Haumea, pas très très loin de l'orbite de Neptune, qui, elle, intéresse les astronomes en particulier parce qu'elle a une forme très irrégulière en ballon de rugby.
Ah oui.
Elle fait à peu près 2000 km de long, mais seulement 1000 km de large.
Ah oui, d'accord.
En 2017, on a calculé qu'elle allait passer devant une étoile, donc encore une occultation. Et donc là, tous les astronomes d'Europe, puisque c'était bien visible depuis l'Europe, ont braqué leur télescope dessus. En fait, ce qui les intéressait, c'était de déterminer bien sa taille et sa forme.
Oui.
Puisqu'au moment où elle passe devant l'étoile, en regardant exactement combien de temps l'étoile est occultée, on connaît la vitesse de la planète, on peut savoir exactement sa taille. Mais ils ont eu une surprise, c'est qu'il y a eu ce fameux petit clignotement avant et après.
Ouais.
Et donc, on a découvert qu'il y avait un anneau.
Donc, un clignotement, un anneau.
Voilà. La raison pour laquelle on ne s'attendait pas à le trouver, c'est que déjà que les anneaux autour des grosses planètes, comme je t'ai dit, ils ne sont pas très stables, il faut des mécanismes particuliers pour les maintenir en place. Autour d'une planète naine, ça ne dure certainement pas longtemps.
Ah oui, et donc quelque chose d'encore plus petit qu'une planète naine, là pour le coup, ça serait complètement impossible. On ne pourrait pas avoir d'anneaux.
Eh bien, étonnamment, si.
Ah.
On connaît un astre qui est plus petit encore, qui est là pour le coup vraiment un astéroïde.
Oui.
Alors, c'est un astéroïde de la famille qu'on appelle des centaures.
Tu sais, c'était les mecs à tête d'humain et à corps de cheval, c'est ça?
C'est ça. Ça, c'est des astéroïdes qui orbitent entre Saturne et Uranus. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des astéroïdes sont entre Mars et Jupiter. Et entre Saturne et Uranus, les orbites ne sont pas stables, en fait. Les trucs qui orbitent là, un coup, ils passent près de Saturne, un coup, ils passent près d'Uranus. À chaque fois, ça les déplace.
Ouais.
Et donc, au bout de quelques millions d'années, ils finissent par être éjectés.
D'accord.
Mais il y en a qui reviennent, qui sont déplacés d'autres orbites, etc. Et donc, on connaît quelques astéroïdes dans cette zone-là. Le premier qu'on a découvert, c'était Chiron. Chiron, c'est le nom de...
C'est le boss des centaures, non?
Oui, c'est ça. Le plus connu des centaures. Il joue un rôle important dans la mythologie. Et donc, quand on a découvert un autre après, qui était même un peu plus gros que lui, on l'a appelé Cariclo. Cariclo, c'était la femme de Chiron, tout ça.
Ah oui, d'accord.
Je ne sais pas s'il y a des astéroïdes mâles et femelles. Mais Cariclo, eh bien, en 2013, toujours la même histoire. Il y avait une occultation qui avait été calculée. Alors, cette fois, pour bien la voir, il fallait être en Amérique du Sud.
Ah.
Et donc, dans tous les pays d'Amérique du Sud, il y a au moins une trentaine d'observatoires qui ont pointé leur télescope dessus. Alors, observer une occultation, ce n'est pas si facile parce que c'est un phénomène très court. Là, par exemple, celle-là, elle dure une vingtaine de secondes.
Oui.
Et les astronomes, quand ils font des photos, ils aiment bien faire des poses longues.
Ah oui.
Souvent, quand on veut prendre des objets qui sont très faibles, bah, plus on arrive à exposer la photo longtemps, plus on va capter de lumière, et donc plus on arrivera à voir des choses.
Mmh.
Mais là, si on veut voir vraiment ce qui se passe au moment de l'occultation, il faut des caméras rapides.
Mmh.
Et là, il y a une des caméras qui a réussi à avoir deux petits clignotements avant et après.
D'accord.
Quand je dis clignotement, c'est vraiment un très petit affaiblissement de la lumière de l'étoile.
Mais deux clignotements, ça veut dire qu'il y aurait deux anneaux alors autour de Cariclo.
Voilà, Cariclo, donc elle a beau être toute petite. Là on n'est plus dans les 2000 km, on est plutôt dans les 250 km de diamètre.
Ah oui, oui.
On est vraiment dans les petits objets. Et celle-là, bah, elle arriverait quand même à avoir deux anneaux. Alors, soit il y a eu une collision qui a éjecté cette matière, qui pour le moment est en forme d'anneau, mais qui va retomber. Soit il y a une autre hypothèse, c'est que ces centaures, on les classe comme astéroïdes, mais ils sont aussi un peu comme des comètes. Tu connais la différence entre un astéroïde et une comète ?
Il y a de la glace sur les comètes ?
Quand on les observe, c'est surtout que les comètes, elles éjectent de la matière.
Ah oui, ça fait une chevelure.
Voilà, alors quand elles sont près du Soleil, ça fait une magnifique queue, qui est vraiment la caractéristique des comètes. Mais même quand elles sont beaucoup plus loin du Soleil, il y a quand même un petit peu de gaz et de poussière qui sont évacués. Et donc, les astéroïdes, normalement, ce n'est pas le cas. Mais ces centaures, bah, suivant les moments, ils ont un petit peu un comportement de comète. Ils sont un peu entre les deux, entre homme et cheval, tu vois, entre astéroïdes et comètes.
D'accord.
Donc, peut-être que ces anneaux de Cariclo, c'est simplement de la matière qui est éjectée en continu du corps central de Cariclo.
Ah oui, alors donc, si des astéroïdes peuvent avoir des anneaux, que des planètes naines peuvent avoir des anneaux, en fait, n'importe quoi peut avoir des anneaux, quoi.
Bah, pratiquement, oui. Alors, on a supposé que des satellites d'autres planètes pouvaient même avoir des anneaux. Par exemple, le satellite Rhea, un gros satellite de Saturne, il y a un moment, on a pensé qu'il avait un anneau. Et puis finalement, la sonde Cassini, là, dont je te parlais tout à l'heure, est passée assez près de Rhea et elle n'a rien vu. Donc maintenant, on se dit que non, il ne doit pas y en avoir. Mais enfin, on n'exclut pas du tout l'hypothèse que des satellites de Jupiter ou de Saturne ou d'autres choses puissent avoir leurs propres anneaux.
D'accord. Bon, bah, comme ça, je vais pouvoir mettre ça dans ma chanson. Ça ferait du genre... There may be lots of rings in other places.
Il y a peut-être beaucoup d'anneaux à d'autres endroits.
Centaurs and dwarf planets display some traces.
Les centaures et les planètes naines en montrent certains indices, c'est ça ?
Oui. Moons are asteroids, even other things.
Des lunes, des astéroïdes et même d'autres trucs, bon.
They could each have their own favorite rings.
Ils pourraient avoir chacun leurs anneaux préférés.
Voilà.
Bah, il faut que tu conclues ta chanson, là, tu mets un dernier couplet.
Bah oui, moi, il y a quelque chose quand même qui me rend un peu triste, c'est le fait que tous ces beaux anneaux, tous ces trucs magnifiques, tu m'as dit que finalement, ils n'allaient pas durer si longtemps. Un jour ou l'autre, ils vont finir soit par tomber, soit par être éjectés dans l'espace.
Soit même se regrouper pour reformer des satellites, mais en tout cas, oui, ils durent.
On ne les verra plus, quoi.
Voilà. Enfin, nous non, de toute façon, mais même nos descendants, suivant les cas, quelques milliers, quelques millions, quelques centaines de millions d'années, mais en tout cas, oui, ils vont tous disparaître.
Bon. Eh ben, ring systems may or may not be quite stable.
Les systèmes d'anneaux peuvent être stables ou non.
We predict they'll end as far as we're able.
On prédit qu'ils vont disparaître dans la mesure de nos moyens.
Don't be sad, though, share the joy knowledge brings.
Ah, ben voilà, ne soyez pas triste, partagez la joie que le savoir nous apporte, c'est ça?
Feel lucky to know your favorite rings.
Et réjouissez-vous de connaître vos anneaux préférés.
When the moon breaks into pieces at the Rogely Meet, it may contribute to a beautiful ring that we'll enjoy while it lasts.
Bon, bah, t'as plus qu'à mettre ça par écrit, puis t'envoies la partition à Alexandre.
Ouais, bah dis donc, je lui souhaite bien du courage, hein.
Many chinks of ice all peter round Saturn, tightly forming a mesmerizing pattern. Gaps and divisions, varied color rings,
These will always be my favorite rings. Small shepherd moons help ring keep its structure. Thanks to their mass we get a nicer picture. Whether the very old or mere younglings, I sure want to keep my favorite rings. Jupiter too has a complex ring system made of particles and rocks from which descend. They're lesser known, but without misgivings, these still cut amongst my favorite rings. When the moon breaks into pieces at a rough limit, it may contribute to a beautiful ring that will enjoy it last. Rings of Uranus are surprisingly diverse. Neptune's are fainter and coil is so dispersed. We've yet to grasp them and get our bearings. There'll soon be some of our favorite rings. There may be lots of rings in other places. Centaurs and dwarf planets display some traces. Moon or asteroids, even other things, they could each have their own favorite rings. Ring system may or may not be quite stable. We predict they'll end as far as we're able. Don't be sad though, share the joy knowledge brings. Feel lucky to know your favorite rings. When the moon breaks into pieces at a rush limit, it may contribute to a beautiful ring that we'll enjoy.
C'était le modèle standard avec Nicolas Graner de l'Université Paris-Saclay et Valentin Villeneuve de l'Ouvroir de musique potentielle.
Merci au CFMI Île-de-France et plus particulièrement à Nina Farge pour nous avoir permis d'enregistrer cet épisode.
La chanson My Favorite Rings est interprétée et produite par Alexandre Le Nagar, accompagnée par lui-même à la guitare et par Valentin Villeneuve au piano.
Cet épisode, enregistré en juin 2019, est diffusé sous licence art libre.
Retrouvez-nous sur lemodelstandard.fr.